Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. Et hop, on est reparti pour une nouvelle émission magnifique en ce mardi soir, soirée de Coupe de France. Eh oui, Strasbourg-Reims ce soir en Coupe de France. Alors je vous dis pas qu'on va faire toute l'émission sur Strasbourg-Reims, mais au moins on en parle, il y a de l'actu. Mais il y a aussi d'autres actus avec nos clubs français et nos clubs de Ligue 1. Et ben, on va faire le tour de tout ça pendant deux heures avec vous. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter. Appelez vos amis, on sera encore plus nombreux parce que Benoît Boutron vient de revenir de vacances et il a un peps d'enfer. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
Ouais, vous m'avez manqué pendant les vacances hein.
Ouais, par contre t'es vraiment nul au kick-off quoi. Mais pourquoi il t'appelle?
Parce que là, Vincent a dû aller se cacher. Donc forcément, on a dû le remplacer au pied levé. Et c'était difficile.
Ouais. Bon, écoute, on est, lui, il se cache pas dans ses analyses. Quoique bon, c'est un peu aseptisé maintenant. Hein. C'est Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet, salut Jean-Mi.
Ouais. Salut Jean-Michel. Bonsoir messieurs, bonsoir Jérôme, bonsoir monsieur de Coubertin.
Eh oui, important c'est de participer.
Bon, ouais. Oui, parce que...
En parlant de Coubertin, il y en a un qui est bien placé, c'est Pascal Olmeta. Ah, bah, salut oui. Pascal.
Salut Pascal. Ouais.
Ah, salut les amis. Hey, Jérôme, tu attaques.
Quoi? Mais non, j'ai rien dit.
Tu attaques Jérôme.
Mais non, je parle du quiz en fin d'émission.
Ouais, le quiz, ouais. Salut Jean-Mimiche, salut.
T'as pas écouté Benoît, mais c'est normal, il a rien dit.
Ouais.
Non, mais tu fais honte, t'as fait honte à roter de sang.
Il y a les artistes, qu'est-ce que tu veux? On prévient à 43. C'est comme ça.
Bah, prévenir ou pas prévenir, peu importe.
Ah bon. c'est à toi, Pékin Express, toutes les réponses là, qu'il fallait trouver, tu les aurais trouvées. Ouais. Pas grave qui signe à Perpignan, tu le savais.
Bah, sur le rugby, oui, je suis très fort. Ouais. Ouais. J'aurais pas fait pire que toi, de toute façon.
Même Léa Drucker, il savait.
Ce qui m'a mis dedans, c'est Arturo Vidal. J'avais et je l'ai pas sorti avant Zidane.
Tu l'as pas sorti.
Qui ça, Zidane?
Non, Arturo Vidal.
Alors que Niki, notre producteur, te l'a envoyé par texto.
Ah ouais, mais trop tard.
Quelle triche.
Alors, grand Roten sans flamme, et surtout restez avec nous et soyez là. À 18h45, on aura un témoignage exceptionnel aujourd'hui dans Roten sans flamme.
Ça, c'est fort, ouais.
Celui de Dukens Nazon, un international haïtien qui évolue en Iran et qui vient d'être rapatrié. Il est arrivé en France ce matin. Il va nous raconter son périple parce qu'il était sur le tarmac lorsque les premiers bombardements ont eu lieu en Iran, les bombardements américano-israéliens. Il nous racontera tout ça. Donc, Dukens Nazon, à ne pas louper, à 18h45. À 19h, cette question, après ce week-end de Ligue 1, Roten se chauffe. Est-ce que la course au titre s'est terminée? Ça y est, il y a 4 points d'écart entre Lens et le Paris Saint-Germain.
Ah bah, les amis... champion.
L'OM part de loin.
Ah non, il parle de Lens maintenant.
Ah, il est Lensois, ça y est.
Il y a tous ses amis corses à Lens, donc c'est normal.
C'est possible que l'OM soit champion, on va regarder quand même. Oui, mathématiquement, c'est possible parce qu'à Lens,
bien sûr. Bah,
bien sûr.
Ah oui, ils sont qu'à 14 points. Franchement, c'est pas.
Potentiellement, s'il sait pas.
Si
tout le monde perd les
matchs, si Paris, sur les 10 derniers matchs, perd 5 matchs et que Marseille fait la totale.
On sait jamais.
Ah bah oui.
L'OM, fusée Ariane, les gars.
Ouais, ouais. Ça la fusée. Ouais. Ariane, alors bon, écoute.
On rappelle qu'il y a 3 mois,
Ariane, on l'embrasse. Ariane, on l'embrasse, mais bon.
Et puis à 18h30, on fera le procès des clubs de Ligue 1 qui s'attaquent encore à l'arbitrage. On a vu des plaintes de l'Olympique Lyonnais, de l'OGC Nice ce week-end. On en débattra donc à 18h30. Et tout de suite, Jérôme, on marche sur des œufs avec ce PSG.
Là, je suis pas bien. Donc la morale, tu vas la faire à d'autres.
Attention, je vous interromps, c'est parti. C'est un départ qui... Oh là là.
Que se passe-t-il?
Ça va pas pour Gvara, messieurs.
Ah oui, t'as raison, il fait des exercices avec son genou.
Et c'est l'hécatombe qui continue.
Ouais, ouais. Je reste à nouveau sa tendinite.
Plutôt
un claquage cuissal.
Dembélé qui n'avance plus, qui ne court plus. La santé physique l'a rattrapé, sa fragilité l'a rattrapé.
Il y aurait plutôt un problème au niveau de la hernie, une sorte de hernie de l'entrecuisse.
Mais du côté du Paris Saint-Germain, on veut tellement prouver qu'ils sont performants dans ce domaine-là, qu'ils ne prennent pas suffisamment de précautions pour Dembélé.
Désiré Doué qui donc n'est pas revenu avec le reste du groupe parisien.
Une hernie testiculaire, en tout cas, cela ne nous regarde pas.
Non, chacun, bien évidemment, Jean-Paul a le droit d'avoir les hernies où il le veut.
Le PSG est émoussé physiquement, il n'y a rien dans le moteur. Les joueurs ne prennent plus de plaisir et ils en donnent plus parce qu'ils sont fatigués, ils sont émoussés.
Mais non, mais on minimise rien du tout.
Cette courte victoire du PSG samedi soir au Havre, 1-0, c'est Bradley Barcola.
Bravo Robert Chipote. Bravo Robert Chipote.
Ah, c'était exceptionnel, les inconnus. Allez vous refaire ce sketch si vous l'avez loupé. Ce match a confirmé donc les difficultés parisiennes du moment, un manque d'efficacité offensive, un manque de réussite sur les pénaltys. Ça aussi c'est dingue, on en parlera. 5 échecs sur 10 tentatives en Ligue 1, c'est quand même assez fou. Et puis une certaine fébrilité défensive. Il y a eu quelques arrêts importants de Safonov. Au classement, le PSG a 4 points d'avance sur Lens, mais ce qui inquiète surtout, c'est donc l'état physique des joueurs. Moins de courses, moins de gaz, moins d'intensité surtout. Précisons que Luis Enrique a accordé 2 jours de repos à ses joueurs. Vendredi, réception de Monaco en Ligue 1, et puis la semaine prochaine, match aller des 8e de finale de Ligue des Champions face à Chelsea. Jérôme, c'est la ligne de Rotten sans flamme. Ce PSG est régulier. Est-ce que le problème est uniquement physique? 32-16 pour participer avec nous.
Uniquement, je sais pas. Je suis pas dans le vestiaire pour te répondre à ça. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce qu'on voit et toutes les infos qu'on peut avoir aussi du vestiaire, c'est que oui, le physique prend une grande partie, si tu veux, des problèmes du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Alors les problèmes, c'est toujours pareil, hein. À part cet échec en Coupe de France, parce que là, pour de bon, ils se sont fait éliminer contre le PFC à domicile au mois de janvier. Ils sont encore en lice, si tu veux, pour atteindre tous leurs objectifs. Donc la situation est pas dramatique. Par contre, après, en termes de contenu et ce qu'on peut voir, si on essaye de jouer un peu les magiciens et d'imaginer un PSG comme l'année dernière qui rayonne au printemps et jusqu'au bout, jusqu'au début de l'été, en écrasant tout le monde et en étant de nouveau champion d'Europe et en gagnant le championnat de France, bah on a du mal à croire que en effet cette équipe elle va être capable de renouveler ce qu'elle a fait l'année dernière. Et pourquoi je te dis ça et que pour moi le problème est avant tout physique plus qu'autre chose, c'est que ce groupe il a pas trop évolué. Donc collectivement ils ont toujours la même force et la preuve hein, les résultats. C'est sûr qu'ils souffrent très souvent, beaucoup plus que l'année dernière, parce que c'est la façon d'être. Et quand tu l'as dit, Benoît, ils courent moins, il y a moins de volume de course, donc il y a moins de permutations. Cette équipe, elle est un peu plus lisible qu'elle l'était.
C'est quoi le dernier match plein du PSG?
Marseille, ouais, mais Marseille, est-ce que contre Marseille, tu peux te dire c'est un match Ligue des Champions? Moi non, par rapport à l'adversaire. Vous savez ce que je pense de l'Olympique de Marseille, ça a jamais été une équipe de Ligue des Champions. Il y a des équipes en Ligue 1 qui sont plus fortes que l'Olympique de Marseille, qui sont capables d'élever le niveau. La preuve, Strasbourg à domicile, je le dis souvent, mais Strasbourg est une très belle équipe. Lyon est capable aussi par moment, mais Strasbourg à domicile, le PSG les a joués dernièrement, ils ont gagné. Donc ça veut dire qu'ils acceptent de souffrir. Dans la souffrance, ils arrivent parce qu'ils ont un mental hors pair. Et ça, franchement, c'est tout le mérite à Luis Enrique, à son staff, avoir créé, même à Luis Campos, avoir créé ce groupe-là, parce que ces joueurs-là ont une conscience professionnelle hors du commun, vraiment. Ce qu'ils ont fait l'année dernière et ce qu'ils arrivent encore à enchaîner avec la fatigue, avec tout ce qu'ils ont, les blessures, la répétition des matchs, le fait de pas avoir eu de préparation du début de saison estivale, préparation physique, de pas avoir eu assez de repos, même si là ils ont eu 2 jours et demi comme tu l'as dit. En fait, si tu veux, cette équipe elle ne lâche pas, et c'est ça qui est fabuleux, parce que par moment ils sont vraiment pas bons, ils sont à 2 doigts de céder, même contre des petites équipes. Et on l'a vu, hein, Benoît, tu vas voir les matchs comme moi au Parc des Princes. Toutes les équipes sont venues embêter le PSG par séquence, ce qui est pas normal. Mais c'est pas normal parce que physiquement ces joueurs là piochent.
Et moi, c'est seulement une histoire physique, c'est ça la question.
Mais c'est, et là, je vais donner la parole à Jean-Michel et à Pascal. Mais pour moi, là où c'est physique, c'est que l'entraîneur n'a pas changé. Ce groupe n'a quasiment pas changé. Donc, ils ont toujours la même envie, si tu veux, de faire mal à l'adversaire.
Ça a été un débat permanent. Et il y en a certains qui imaginaient que c'était bien qu'il n'y ait pas trop de renforts.
Mais ils sont trompés.
Ils se sont. Eh bien, c'est bien.
Ils se sont trompés. Jean-Michel, je te laisse parler dans 2 secondes, mais pour réagir là-dessus, moi, j'allais dans leur sens, si tu veux. Eux, ils estiment que. Bien. il fallait pas de renfort pour faire jouer des jeunes. Quand tu fais jouer des jeunes, même s'ils sont très talentueux, forcément l'équipe elle est plus faible, elle est moins forte, ça c'est sûr. Et tes cadres qui sont épuisés, parce que ça, quand tu manques d'énergie, c'est que physiquement tu pioches automatiquement. Quand tu manques d'énergie et que t'es sur courant alternatif, que par moment tu fais une bonne perf et que après tu fais une moins bonne perf, on le sait, on l'a vécu. Et moi je finis juste là-dessus. Tu sais, nous on est là pour donner notre expérience aussi. Et Pascal, Jean-Michel, ils l'ont connu aussi. Un joueur de football de haut niveau, je parle du foot, hein, je parle pas des autres sports, même si je pense qu'ils ont le même ressenti quand ils sont bien. Mais pour être au top, si tu veux, dans ton, parce que ça reste un sport technique. On parle souvent du côté athlétique, du côté physique, les courses, répétition des courses et tout. Oui, mais c'est le ballon au pied qui fait la différence. C'est d'avoir vu plus vite que l'adversaire pour les mettre en difficulté. Ça, c'est ça. Et c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un très grand joueur. Et pour atteindre, si tu veux, les sommets comme ils ont atteint l'année dernière, et on a eu la chance avec Jean-Michel, alors moi, ça n'a pas duré 15 ans, mais on a eu la chance d'atteindre, et avec Pascal, pareil, des sommets en Coupe d'Europe. Comment tu les atteins? C'est que quand tu es sûr de ton physique, t'es bien dans ta tête, t'es bien surtout, tu vois plus vite. Tu vois avant l'adversaire, tu inventes des choses, et surtout, tu te sens très fort. Et quel que soit l'adversaire en face, quelles que soient les références qu'il a, tu te dis, on va l'écraser. Je vais gagner mon duel et collectivement on va les écraser. Et c'est ce qu'ils ont ressenti l'année dernière, le PSG. C'est pour ça qu'ils étaient aussi forts. Cette année, je suis sûr que quand ils commencent les matchs, quels que soient les joueurs, regarde l'exemple de Kvaratskhelia. L'année dernière, il était incroyable. Il courait partout, il faisait des efforts, il marquait des buts. Il en a fait par moments, mais sur courant alternatif depuis le début de saison. Mais lui, ben vraiment, et même Vitinha, si tu veux, je stigmatise là-dessus, parce que tu sais que quel que soit l'adversaire qu'il va avoir en face de lui, il va être en difficulté parce que physiquement, il pioche. Et après, est-ce que tu peux leur en vouloir? Bah, non, mais bon. Non, mais par après, contre, c'est inquiétant.
Jean-Michel, est-ce que c'est seulement le physique qui explique la fébrilité défensive, le manque d'efficacité offensif? Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Mais Benoît, bien sûr, parce que à ce niveau-là, à ce niveau de compétition, à ce niveau de performance, ça se joue sur des détails, ça se joue sur 20 centimètres, et quand t'as 20 centimètres d'avance ou 20 centimètres de retard, ça fait 40. Et à la sortie, au lieu d'avoir l'épaule devant, tu l'as derrière. Donc ça semble rien. Mais c'est énorme. Et puis, moi, où je suis inquiet, c'est que je ne vois pas comment. Et c'est humain, hein, je ne leur en veux pas. C'est totalement humain.
Oui,
je
pense humain, qu'il y a
des, il y a des gars qui ont du mal à se remettre dans le coup et qui auront. Et plus ça va, c'est un cercle vicieux parce que ils font des efforts alors qu'ils n'en ont pas la capacité ou n'en ont plus capacité.
C'est vrai.
Mais il y a des joueurs qui vont tourner en rond, ils vont avoir beaucoup de mal. Moi, théologiens là, qui me parlent de, on appuie sur le bouton et tout va revenir. Voilà, c'est magnifique, oui. Non, mais ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe.
Mais à vous entendre, on est très inquiet pour Chelsea, alors. Hein, si je comprends bien.
Moi, je suis inquiet, oui.
Non, mais écoute, les derniers matchs importants, y compris contre Monaco, qui jusque-là n'apparaissait pas comme un foudre de guerre.
Ouais, car on peut pas
dire que quand ils se sont présentés dans les barrages de Coupe d'Europe, j'ai pas l'impression qu'il y allait beaucoup qui aient joué Monaco comme favori.
Ouais.
Ils étaient hyper favoris. Ils sont passés par un trou de souris, hein, les Parisiens. Ils sont passés par un trou de souris. Donc, parce qu'ils n'y arrivent plus physiquement, et c'est là où je persiste sur ce que l'on disait, une équipe qui gagne, et Paris n'a pas gagné l'an passé. Ils ont tout gagné. Ils ont beaucoup gagné. Mais même dans ces cas-là, remets un tout petit peu de sang. Tu parlais de Kvara tout à l'heure, Jérôme.
Ouais.
Il est arrivé à l'hiver dernier.
Au mois de janvier dernier. Ouais.
Il a apporté ou il n'a pas apporté, ce garçon?
Fabuleux, ce qu'il a fait.
Il a apporté énormément. Et je pense que s'ils avaient eu la chance, peut-être que ça se présentait pas, ça se trouvait pas. Mais s'ils avaient eu la chance de trouver un ou deux joueurs comme pour redonner un peu de sang neuf. Mais les gars, ils sont cuits. Mais c'est normal que Vitinha, qui mesure 1m70, à un moment donné, c'est dur pour lui.
Physiquement, ça se sent, hein. Bon, ça c'est sûr.
Mais,
Vas-y, vas-y.
Vas-y, Pascal. Pascal.
Vas-y, non, mais vas-y. Pour parler du joueur dont vous parlez, là, il est, tu le regardes en Ligue des Champions, c'est, ça n'a rien à voir avec le championnat de France.
Qui verra
après. Ouais, et ensuite, si vous me dites qu'ils sont pas carbo à la 24, parce que 25e, ils reçoivent Monaco.
Oui.
C'est que, Jérôme, tu en as parlé 2 secondes de l'OM, tu n'es pas du tout d'accord, parce que tu le vois que par Paris Saint-Germain. Mais chaque année, ils ont 12, 15 points d'avance. Là, ils en ont que 4. Et jusqu'à maintenant, ils ont joué les seconds, et Lens était devant. Et si on regarde les mêmes matchs, tu vois bien qu'ils ont des temps de retard sur toutes les occasions qu'ils essayent de mettre en place
ou d'aller intercepter
ou d'aller la force.
Mais c'est ce qu'on dit. Même, hein.
Oui, je sais, mais même la force qu'ils avaient au milieu de terrain pour aller harceler, presser.
Rien à voir. C'est vrai.
Rien à voir. C'est vrai. Alors, on va pas parler du match contre qui va arriver en Coupe d'Europe, mais déjà contre Monaco, et on n'est qu'à la 25e journée. Il reste encore des journées.
Championnat de France, Pascal, honnêtement. Je pense qu'en championnat de France,
on en parlera
ils
19
quand même.
C'est
la
reste, on parlera de la course à titre. Et quand tu es fatigué, tu peux te blesser plus facilement. Tiens. Que et si tu as encore une blessure ou deux.
Tu sais, Pascal, pour
après, on accueille Pierre,
mais pour répondre à ce que tu disais sur la Ligue 1, ils ont, et moi je suis d'accord, mais on va en parler à 19h. Ils ont une marge encore. Et la preuve, c'est que dans cette souffrance et dans des matchs qui sont loin d'être aboutis, à part oui le match contre Marseille au Parc des Princes, mais on savait qu'il y avait un état d'esprit aussi de revanche, oui, et qu'il fallait pas le rater celui-là.
Pareil. Et quand tu regardes le Havre.
Mais quand tu regardes tous les autres matchs, ils ont gagné. Ils sont pas fait accrocher en championnat.
Ah, ils sont
sur un fil. La seule défaite, donc, c'est dernièrement à Rennes. En effet, sinon ils ont fait que gagner. Mais gagner dans la souffrance. Mais ils gagnent.
Par contre,
en Ligue des Champions, et on l'a vu, ça ne suffit pas.
Bah non.
Parce que les derniers matchs au mois de janvier, Sporting, t'as perdu.
Ouais.
D'accord. Alors après, ça s'est joué aussi. Newcastle, tu devais gagner chez toi pour être qualifié en 8e directement.
Tu n'as pas réussi.
Ouais. Et franchement, t'as fait un petit match.
C'est vrai.
Et qui est l'homme du match au Havre?
L'homme du match au Havre.
Ouais, il y a Barcola quand même qui fait un bon match.
Non, Savonov.
Ah, Savonov, il fait deux arrêts.
Tu les fais pas, tu as perdu.
Mais de toute façon, les gars, il y a quelque chose, même s'ils ont du mal à le dire, et c'est normal. Moi, je veux bien que l'entraîneur, et encore, il s'est pas caché, hein, Luis Enrique dernièrement, mais qu'il a envie de trouver des circonstances atténuantes et de croire, si tu veux, au miracle que, en termes d'énergie, ça revienne et tout ça. Et c'est pour ça. Regarde, c'est pas anodin. Il laisse deux jours et demi de repos.
Le meilleur joueur, ça soit le gardien. C'est pas normal.
Non, mais
Jérôme,
mais regarde.
T'imagines le calibre que tu as de Paris Saint-Germain, la cylindrée.
Mais en fait, tellement, et on va accueillir Pierre, mais tellement ils sont sur un fil, c'est que après le match du Havre, il leur dit, bon, vous savez quoi, on se retrouve mercredi après-midi, donc demain après-midi, sachant que t'as un match contre Monaco vendredi soir.
Tous aux chandelles.
Donc ça veut dire. Non. Mais c'est en fait, il y a des groupes, je pense, qu'il ne pouvait pas le faire. Mais avec eux, il peut le faire.
Ouais.
Il peut se faire de le faire.
C'est qu'il sait qu'ils ont besoin de régénérer leur organisme.
Oui, mais ça veut dire beaucoup.
Mais ils n'y arriveront pas.
Mais Pierre est là.
Mais moi, je pense aussi.
Pierre nous rejoint dans Rotten Sans
Flamme. Ça, et Pierre est là. Bonjour Pierre.
Bah, Pierre va nous dire. Salut Pierre.
Bonsoir Jérôme. Bonsoir l'équipe.
Ça va
Pierre.
Salut Pierre. Ça va Jean-Michel.
Ça va, nickel.
Je donne la parole à Pierre.
Pierre, est-ce que le problème est uniquement physique alors?
Déjà, il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour parler des problèmes du PSG. Le problème, déjà, c'est facile de se cacher, en fait, derrière le physique, et depuis le début de la saison, on se cache derrière le physique. Mais le problème, c'est qu'en fait, pour moi, il est aussi mental. C'est-à-dire qu'en fait, vu que physiquement, on était moins bon, on a mentalement, en fait, l'année dernière, on rentrait dans la tête des adversaires. C'est-à-dire que les adversaires avaient peur de nous jouer. Et on faisait peur. Et là, d'avoir flanché un peu physiquement au début de saison et d'avoir donné les clés un peu à nos adversaires, comment nous prendre, c'est-à-dire par une intensité qui était plus forte que la nôtre, on a nous perdu un peu en mental et les adversaires se sont renforcés mentalement et ont fait beaucoup moins peur. C'est-à-dire que l'année dernière, quand on affrontait qui que ce soit, on savait, comme l'a dit Jérôme, on savait qu'on allait les taper. Mais là, cette année, on doute, et les adversaires, du coup, ont repris le dessus. Donc, le physique a engendré un moins bon mental. Vu qu'on est moins bon physiquement, on joue moins collectivement.
Laisse-moi terminer.
Vas-y, Pierre, vas-y.
Vu qu'on est moins bon physiquement, et du coup, collectivement, on a des individualités qui ont tendance, du coup, à forcer le jeu, et plus à jouer naturellement comme on le faisait l'année dernière. Et puis vous avez parlé de la fébrilité défensive, mais moi la fébrilité défensive, on l'avait déjà l'année dernière, les gars. Les 3-4 occasions par match, on les prenait l'année dernière. Mais c'est juste que derrière, il y avait un mec qui nous les
sortait. Après Pierre,
pas de show. Mais les gars, l'année dernière, à chaque match de Ligue 1, on prenait un but.
En fait, Pierre, c'est moi là où, et attention, t'as raison sur beaucoup de choses que tu viens de dire, et encore une fois, moi je veux pas vendre la peur avant le PSG. Je l'ai bien dit au départ, le PSG, ils sont encore premiers de Ligue 1, ils ont de grandes chances d'être encore champions, et la Ligue des Champions, ils jouent Chelsea, et Chelsea, quand tu les vois jouer, il faut pas non plus les voir trop beaux, ça c'est sûr. Par contre, le dernier match, ça reste Chelsea. Chelsea pour autant, tu vois. Et ils ont trois équipes, je pense que Chelsea, c'est pas la meilleure équipe d'Europe. Mais par contre, Jean-Michel, arrête de dire
est-ce que le Chelsea qui se présente là. Oui, mais non, mais est-ce que le Chelsea qui se présente là et
écoute, moi j'ai déjà perdu le Kikadi, tu vas pas me crier dessus pendant une demi-heure.
Que le Monaco qui allait affronter le Paris Saint-Germain.
Il sera meilleur, Jean-Michel, là où je suis d'accord avec toi, c'est que toutes les équipes anglaises, et en plus le PSG en a rencontré dans ce mini-championnat, ils ont joué Tottenham qui joue pour le maintien, et contre Tottenham ici on a galéré. T'as joué Newcastle où en effet Newcastle il roule pas sur la première ligue,
il y a pas eu un adversaire où on a galéré, mais en fait
l'an passé t'as battu tous les meilleurs du championnat anglais dans la phase à élimination directe, d'accord, mais tu leur as marché dessus. En fait, tu leur as marché. Tu rappelles-toi le match aller contre Liverpool où tu le perds ici au Parc. Mais ils ont pas dépassé le milieu de terrain. Ils marquent à la fin du match. Donc contre Arsenal, ça a été la même chose. Si tu veux, il y a eu plein de matchs l'année dernière parce que
c'était l'an passé.
Parce que cette équipe physiquement, elle était programmée avec un dispositif. Elle était incroyable. Elle était impressionnante. Cette année, ce qui me fait peur contre les Anglais, parce que physiquement ils vont être bien, ce qui me fait peur, c'est le match que j'ai vu contre Monaco en Ligue des Champions au Parc des Princes, le match retour, la première mi-temps, où j'ai vu des joueurs parisiens avoir envie de fonctionner en rouleau compresseur comme ils le faisaient l'année dernière, et ils n'y arrivaient pas.
Merci à Pierre,
c'est pour ça que j'entends que c'est mental et ça me.
Le PSG joue au Parc des Princes contre Monaco avant de recevoir Chelsea en 8e de finale aller de Ligue des Champions mercredi soir. Roten sans flamme exceptionnel ce soir-là en direct du Parc. Dans un instant, on ouvre le procès des clubs de Ligue 1 qui s'attaquent encore à l'arbitrage. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h28 sur RMC. La deuxième demi-heure de Roten sans flamme débute maintenant avec Jean-Michel Larc, avec Pascal Olmeta et avec Benoît Boutron. Le Allo Jérôme spécial aujourd'hui, oui.
Oui. Avec Dukens Nazon, l'international haïtien qui va disputer la Coupe du Monde d'ailleurs en juin prochain. Il a fui l'Iran avant-hier. Il est arrivé ce matin en France. Il va nous raconter justement comment il a vécu tout cela. Ne loupez pas ce moment important, donc à 18h45 sur RMC. Mais tout de suite, on ouvre le procès.
RMC, Roten sans flamme.
Le problème de l'arbitrage aujourd'hui, c'est que c'est une secte fermée.
Moi, je trouve que c'est honteux ce qu'il dit et ce qu'il raconte, et il fait énormément de mal aux hommes qui sont sur les terrains. Quand on a la dimension de quelqu'un comme Jean-Michel Larquet, on devrait mesurer ces propos-là. Et pour moi,
je sais du factuel et que je te dis.
Jean-Michel, je t'ai pas coupé, Jean-Michel.
Le procès de Roten sans flamme.
c'était un grand moment de cette saison de Rotten Sans Flamme.
Chaud, hein.
Le face-à-face entre Jean-Michel Larquet et Michael Landreau, qui était à l'époque.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que je t'ai pas coupé, Jean-Michel.
À l'époque, à l'époque, oui, c'est terminé.
Tu t'es fait défoncer, Jean-Michel.
Alors, de nouvelles contestations autour des décisions arbitrales le week-end dernier, contestations lyonnaises notamment, la colère de Paulo Fonseca. L'expulsion du directeur technique Mathieu Louis-Jean. Nice est également en colère. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais le communiqué publié hier avec un listing des erreurs présumées. D'ailleurs, sachez que plusieurs dirigeants de Ligue 1 ont travaillé sur des pistes d'amélioration pour l'arbitrage en France. Ça concerne Lille, Lyon et Monaco, avec quatre piliers évoqués. L'organisation globale de l'arbitrage, la communication, le champ d'action des arbitres et un éventuel recours à l'intelligence artificielle. On n'en est pas encore là, rassurez-vous.
Qui ne réglera rien.
Juste vous signaler que Michael Gerlinger, le DG de l'OL, estime que l'arbitrage en Ligue 1 a 10 ans de retard sur la Première Ligue ou encore la Bundesliga. On ouvre donc le procès des clubs de Ligue 1 qui s'attaquent encore et toujours à l'arbitrage.
Ben oui.
Avec deux procureurs ce soir, Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et Pascal Olmeta, bonsoir.
Bonazer.
L'avocat des clubs de Ligue 1, c'est donc, vous l'avez compris, Jean-Michel Larquet, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Et c'est Solal, supporter lyonnais, qui va rendre son verdict au 32-16. Bonsoir Solal.
Bonsoir à tous.
Salut Solal.
Sois le bienvenu.
Bonsoir.
Bienvenue.
Jérôme, t'en as marre des critiques incessantes contre les arbitres. T'as pas toujours été le meilleur ami des arbitres, mais là t'en as ras le...
Non, je suis pas le meilleur ami des arbitres, ça vous le savez. Du moins, c'est pas que je suis ami ou pas ami avec eux, c'est que je dis haut et fort ce qu'on ressent sur le terrain, la frustration quand ils s'énervent et quand ils te parlent mal et surtout qu'ils se trompent et qu'ils ont du mal à le reconnaître. En effet, là, j'ai envie, et qu'ils ont pas la bonne aptitude aussi, j'ai envie de leur tomber dessus. Mais il y a par moment, en effet, où il y a des choses qui se corrigent. Et moi, ce que je constate, c'est que depuis le début de saison, il peut y avoir des erreurs, il n'y a pas de problème. Il y a encore eu des erreurs ce week-end. Il peut y avoir aussi des erreurs, des problèmes d'interprétation sur des fautes. On parle de Lyon, le troisième but de l'OM. Il y en a qui vont dire qu'il y avait faute au début, d'autres qui vont dire que ben non, l'arbitre a eu raison de les laisser. Donc moi, je vais même pas rentrer dans ces débats-là. Hors jeu ou pas hors jeu, pour moi, ben, la VAR doit être respecter le règlement, qu'on soit d'accord ou pas. C'est comme ça. Et c'est vrai que ça fait chier, façon de parler, quand c'est contre toi à un millimètre. Non, mais c'est vrai. Et que tu te dis que si ce but-là avait été marqué, Lyon serait certainement imposé, ça aurait été logique. Et puis après, t'as des équipes aussi, alors ça parle pour les Lyonnais, qui se sentent lésés sur le match à Marseille. Je pense qu'ils ne le perdent pas à cause de l'arbitre, déjà. Que après, moi je veux bien qu'ils sortent du bois, le DG de Lyon, en nous expliquant que c'est mieux en première Ligue ou c'est mieux en Bundesliga. Moi, je savais pas que l'arbitrage allemand était une référence. Bah, je le découvre à travers les propos de Gerlinger. Et moi, ce que je vois, c'est que juste quand tu regardes individuellement ce qui nous représente sur la scène européenne et même sur les grandes compétitions, et bah, qu'il y a beaucoup d'arbitres français, que le meilleur arbitre français du monde, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un français, c'est et pas un anglais, c'est pas un allemand. Donc, ça veut dire que, en effet, il y a quand même de la qualité dans l'arbitrage français et que les clubs, c'est toujours très facile. Quand j'entends, alors Lyon qui se plaigne de ceci, cela, mais quand je vois que Nice, ils osent aujourd'hui nous sortir un compte rendu et ils ont des interrogations.
5 matchs qui sont lésés par l'arbitrage d'après.
Mais le problème, il n'est pas là de le dire aujourd'hui, très bien, mais va voir les arbitres, essayez de vous confronter à eux pour faire avancer le schmilblick. Si, Jean-Michel ne dit pas impossible, dernièrement ils ont proposé une réunion, il y a des clubs qui sont venus, des clubs qui ne sont pas venus. Donc écoute, une fois que tu tends la main, si tu saisis pas le bâton pour essayer de faire avancer schmilblick, mais que tu te plains à chaque fois sur des faits de jeu pour expliquer à tes supporters que on est lésé, donc tu rends compte, on joue le maintien, on s'appelle Nice, on a besoin de dire que l'arbitrage est une catastrophe en notre faveur et qu'on le comprend pas et que c'est toujours contre nous. Alors, et ben écoute, moi j'ai envie de leur dire, taisez-vous. Parlez-nous juste de vos choix dans le club, à l'intérieur des joueurs, des directeurs sportifs, des entraîneurs qui ont changé. Ces clubs-là, taisez-vous, parlez-nous de ça, et l'arbitrage, laissez-le, et essayez d'améliorer les choses, parce que c'est bien beau de sortir des communiqués. Mais moi, ce que je vois, c'est que la fin de saison va arriver au mois de mai, au mois de juin. Ils vont tous partir en vacances, la plupart d'autres, ils vont travailler sur le recrutement, et que tu vas reprendre la saison prochaine avec des arbitres d'un côté et les dirigeants
de l'autre. Il n'y aura pas de conciliation.
Et puis, les arbitres, ils vont se dire, bon, bah alors, cette année, on a pêché là-dessus, là-dessus. Bon, allez, alors maintenant, là, on va axer sur les pénalties, sur les coups de pied arrêtés. Allez, il y en a marre. Jean-Michel, il le dit souvent.
Ah ben, je vais t'en parler.
Et donc, pour moi, arrêter et laisser les arbitres travailler et arrêter surtout de les comparer avec l'étranger.
Ouais, moi, personnellement, je ne vais pas attaquer les clubs. Je ne vais pas attaquer ce qui s'est dit. Je ne vais pas... Tout simplement, un jour, on va finir par jouer sans arbitre et puis, on fera avec. Mais, j'ai vu ce dimanche, là, j'étais avec mon fils, un stage. Attends, Jean-Michel, je sais que l'infirmière, elle n'est pas encore arrivée. Attends, on va te faire.
Si, elle vient de revenir.
Ah, d'accord. Bon, ben, n'oublie pas de.
Allez.
Bon, voilà. Tout simplement. Non, j'ai vu un stage de gamins, là, des arbitres de 16 ans. Ils étaient une dizaine et je me posais la question, parce que nous, on parle du haut niveau. Mais quand vous voyez des matchs le dimanche où ils se prennent des gifles et ils continuent, eh ben, ces gamins-là que je regardais en stage ce week-end, eh ben, bravo, félicitations, parce qu'ils ont le courage de continuer. Et c'est à nous, professionnels, de les aider, ces arbitres. Et il faut qu'on arrête une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est tout.
Alors Jean-Michel, vas-y, parlons de la défense.
Ah, c'est bien, parce que vous avez parlé des arbitres amateurs et je vais commencer par ça d'ailleurs.
Ah,
et parce
il bégaye, ça arrive.
Concernant cette énième affaire de l'arbitrage, il y a pour moi un coup de cœur et puis quelques coups de gueule. Le coup de cœur, justement, Pascal, tu en parlais, c'est pour une jeune arbitre féminine, amateur, et livre à elle-même, que j'ai vu samedi après-midi, sur un match de U16 entre Saint-Jean-de-Luz et Bayonne. Elle a été remarquable, toute seule, la gamine, toute seule. Ah ben, elle a été pédagogue, précise et respectée, elle a été magnifique. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de la féliciter à la fin du match, mais je le fais là. Et je vais distinguer ceux qui galèrent dans l'arbitrage amateur, et qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont tout seuls. Il n'y a pas de délégué, il n'y a pas d'arbitre de touche. Ils sont tout seuls ou elles sont toutes seules. Et ceux-là, ils ont beaucoup, beaucoup de mérite. Mais je vais parler maintenant de l'arbitrage professionnel qui est incapable de se remettre en question. Incapable. Je vais commencer par tordre le cou à ce que tu as dit.
Oula.
Qu'on va jouer sans arbitre. Mais je te rassure, moi, Jean-Michel Larquet, j'ai fait des matchs sans arbitre.
Ah, pas en professionnel.
Et un match de football. Non, mais attends. Un match de football sans arbitre, tu peux. Un match de football sans joueur, tu peux pas. Donc, je vais tordre l'arbitre quand même à cette affirmation qui dit sans arbitre, on peut pas faire de match de football. Et je vous signale quand même qu'il y a des milliers de matchs qui, chaque week-end, se jouent sans arbitre officiel. Et ça se passe très bien.
Des matchs amateurs.
Oui.
C'est pas les mêmes enjeux.
Je m'en fous.
Il y a toujours un enjeu.
Je te parle de l'arbitrage.
Oui, d'accord, mais bon, c'est incomparable.
Mais c'est un résultat. C'est là, de c'est la justice. Sujet. C'est l'application. Non.
Nous, on parle de l'arbitrage professionnel en Ligue 1.
Non. Ouais. Et bien là, je te parle des gens qui... Dans l'arbitrage professionnel, on te dit, il faut forcément un arbitre. Il n'en faut pas un, il en faut sept maintenant. Il en faut sept.
C'est vrai.
Bon. C'est vrai. Non, mais il faut pas déconner quand même.
Ouais. Et le délégué aussi avec ses lunettes derrière.
Allez Jean-Marc, voilà. il faut avancer. Bon.
J'ai joué et ça s'est passé très bien. Un coup de gueule aussi sur cette communication. Alors là, effectivement, nous avons eu l'extraordinaire Michael Landreau qui est passé, tel un météorite, tel un pet sur un drap de soie, et voilà, et qui fait aujourd'hui le bruit du pas qui s'éloigne, et c'est-à-dire qui, comme d'habitude, qui a servi à rien. Mais on en a fait des cent et des mille. Coup de gueule aussi contre cette direction qui est un panier de crabes. Je vous signale quand même que dans la commission technique de l'arbitrage, c'est quand même la seule commission à la Fédération française de football où certains ont été accusés et condamnés pour diffamation. Vous vous rappelez quand même de l'affaire Derrien. Mais tout se passait bien. C'est des gens irréprochables.
Oui.
Et puis, tu en parlais tout à l'heure sur les coups de pied arrêtés. Je persiste et je signe. Coup de gueule contre ces arbitres pros, incapables, contrairement à la gamine dont je parlais tout à l'heure, incapables d'appliquer le règlement. Je persiste et je signe. Aujourd'hui, je veux bien que l'on soit tous les trois réunis, tous les quatre, Benoît, Jérôme, Pascal, avec quatre arbitres, et on va disséquer 10 corners dans le même match. 5 pour une équipe, 5 pour l'autre. Je vous jure que sur les 10 corners, il y a soit 10 coups de pied, 10 coups francs pour l'équipe qui défend, ou 10 pénaltys pour l'équipe qui attaque. On ceinture, on accroche, on pousse. Ça, c'est signalé tout le temps, 100 fois sur 100, au milieu de terrain. Ça ne l'est jamais dans la surface de réparation. Alors, quand tu n'appliques même pas le règlement, comment veux-tu être crédible?
Ça, c'est un problème global de l'arbitrage un peu partout en Europe.
Bon, et attends. La VAR, elle a rien résolu, la VAR, hein, parce que les débats sur l'arbitrage, ils existent toujours.
Ah, bah oui.
Et demain, la Sono, elle ne voudra rien du tout. Voilà.
Un petit peu.
Solal, qui remporte ce procès, Jean-Michel Larquet ou le duo de procureurs Roten-Olmeta?
Écoutez, c'est un débat intense, difficile à départager, mais mon avis va en faveur de Jean-Michel.
Ah.
Voilà. Moi, je pense que la critique, c'est l'amélioration et la remise en question. Alors que si on fait rien, bah, on va s'enfoncer dans notre médiocrité. Donc, je rejoins Jean-Michel.
Merci Solal pour ce verdict. Merci Solal. Rappel, victoire de Jean-Michel Larquet.
Stéphane, ouais,
exactement. Il n'y a que la haine de l'arbitrage qui vous unit finalement. Non, je plaisante. Ouais. Merci Solal d'être venu au 32-16. Et dans un instant, un témoignage très fort dans Roten sans flamme, celui de Dukens Nazon, international haïtien qui vient de rentrer d'Iran. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h45 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. On finit la première heure avec le Allo Jérôme spécial aujourd'hui, oui, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, en Iran. Et ben, on a la chance de recevoir Dukens Nazon qui est là avec nous en plateau. On va l'accueillir dans un instant. On est avec Jean-Michel Larquet, on est avec Pascal Olmeta, avec Benoît Boutron. Après 19h, Benoît,
on reparlera du championnat de France de Ligue 1. Est-ce que la course au titre est terminée? On vous attend d'ailleurs, supporters lensois, supporters parisiens, au 32-16. Mais tout de suite, c'est donc Allo Jérôme.
RMC, Roten sans flamme.
And this is Nazon, and still going forward. And Nazon's made space for the shot. Oh yes!
Allo Jérôme.
Le quatrième jour de guerre au Moyen-Orient, cette opération lancée samedi par Israël et les États-Unis face à l'Iran. On a la chance aujourd'hui de recevoir Dukens Nazon, qui est attaquant international haïtien, qui vient de rentrer d'Iran ce matin et qui est déjà dans Roten sans flamme en studio avec nous, Jérôme.
Salut Dukens.
Bonjour à tous.
Déjà, merci d'être là. C'est toujours un moment particulier déjà pour nous et surtout pour toi. Déjà, les nouvelles, comment tu vas?
Ben, avant tout, merci de me recevoir sur le plateau. Je vais bien. Je suis très fatigué, secoué par ce voyage très mouvementé.
Le périple.
Ouais, c'est
un... Donc tu peux nous raconter un peu de le périple, t'es parti quand, comment t'as fait pour te retrouver à Paris là?
Je suis parti, ça va faire là peut-être 2 jours et demi, presque 3 jours.
Mm-hmm.
J'ai quitté la capitale au moment des bombardements. J'étais dans l'avion, normalement j'étais sur le tarmac, prêt à décoller pour Istanbul. Et là on a dû débarquer de l'avion en urgence. Ils ont dit que l'espace aérien était fermé et que les bombardements commençaient.
Tu l'as senti venir ou non? C'était un choc et une surprise pour toi que comme ça il y a un conflit ouvert en Iran?
À vrai dire, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont en train de se chauffer les uns les autres. Mais la veille, j'étais en train d'échanger avec un ami à moi, Virgile Pinson, qui joue en Israël.
Ouais.
Et il commençait à me dire, Dukens, ils sont en train d'ouvrir les bunkers. Il y a beaucoup de mouvements policiers en bas de mon hôtel. Commence à prendre tes dispositions.
C'était les prémices, quoi. Tu sentais qu'il t'a alerté que la guerre pouvait commencer.
En fait, il m'a alerté, mais il y avait déjà des bruits avant aussi. Les gens nous disaient quitter le pays. Ça faisait déjà depuis 1 mois, 3 semaines. Chaque semaine, ça se répétait. C'était vraiment la même chose. Du coup, on s'est dit, ça va être comme la semaine d'avant. Il n'y allait rien avoir. Et le lendemain matin, quand je suis dans l'avion, moi, je suis assis comme ça, derrière moi, là. J'ai commencé un peu à sentir pourquoi, parce qu'il y avait le proviseur de l'école française qui était derrière, et il y avait des gens de l'ambassade française derrière moi.
Mmh.
Là, ils ont commencé à quitter le territoire. Je me suis dit, ah, bizarre. On a peut-être quitté au bon moment. Et en fait, lui, il m'envoie un message sur mon Snap. Et il me dit, Dieu, il t'aime. Je dis, comment ça, Dieu, il m'aime? Il me dit, bah, Dieu, il t'aime. T'as quitté au bon moment. Là, t'es parti tout pile. Je dis, pourquoi? Il me dit, bah, parce que là, j'entends l'alarme retentir tout de suite, là, en Israël. Là. C'était en live.
Ouais, ouais.
Et il me dit, ça veut dire, et là, ils sont en train de nous dire qu'ils ont attaqué l'Iran. Du coup, ils ont fait retentir l'alarme de guerre pour dire, en gros, préparez-vous, là, on vient d'attaquer.
Allez vous cacher, quoi.
Voilà, préparez-vous, là. Voilà, exactement.
Ouais.
Et dès que j'entends son audio, même pas 10 secondes après, bah là, le commandant de bord, il dit, pas de décollage. Hop, annulé.
Ah ouais. Ce qui est fou dans ton histoire, c'est qu'ensuite, tu es rapatrié à Téhéran avec un bus de ton club. Donc, le club, c'est Estegal, le club dans lequel tu joues en Iran. Mm-hmm. Et le bus, comme ça, récupère différents sportifs qui font partie de ce club. Mm-hmm. Et là, tu te retrouves au point de départ. Là. Tu te retrouves en plein cœur du conflit et bloqué en Iran.
Exactement. Ensuite, en fait, avant que le minibus en fait, prenne en charge les autres joueurs, il faut savoir que ce bus, on l'a attendu à Téhéran pendant approximativement 7 heures. Mais avant de rejoindre Téhéran même, la capitale, j'étais à l'aéroport avec Mounir Ladadji, ancien
joueur du Barça, ouais.
Exact.
International marocain.
Exactement, exactement. J'étais avec Mounir et on a pris un taxi. Enfin, le chef de la sécurité des Seglan nous a pris un taxi pour pouvoir nous ramener à Téhéran, d'abord. Et sur la route, là, on a vu un bombardement là, juste à côté de nous.
Donc t'as vu un missile exploser à côté de toi, à quelques centaines de mètres de toi.
Voilà, il était là-bas. Ben, je l'ai mis dans ma story sur Snapchat. C'est là où les gens voyaient justement, ils voyaient tous mes déplacements. C'est là où ça a créé de l'engouement et tout. Et
voilà, on a dit de la peur. T'étais inquiet quand même.
Oui, j'imagine.
En fait, il venait d'exploser là-bas. Mais je me suis dit que bon, peut-être il allait pas en avoir un autre dans la minute qui suit. Voilà, sur la route ou quoi. Et à gauche, c'était vraiment une scène de guerre. À droite, il y a ça, il y a la fumée, etc. Et à gauche, toute l'autoroute qui était vraiment bouchée, parce que les gens étaient en train de sortir de Téhéran, mais nous, on était en train de rentrer. Du coup, c'était fluide de notre côté. Mais là-bas, c'était bouché sur des kilomètres et des kilomètres.
Ouais. Ah, vous voyez tous les gens qui commençaient à fuir le pays, quoi.
Exactement, ouais. Exactement. C'était. Ouais.
Et tu prends la décision quand, en fait, quand tu arrives à Téhéran, tu te dis bon bah écoute, maintenant, je peux pas rester là,
je
vais repartir.
En fait, moi, c'était vraiment un concours de circonstances qui a fait que j'étais là au moment où ça s'est produit, puisque il y avait match la veille.
Ouais.
D'accord. Oui, la veille, il y avait match. Et le coach était censé me libérer parce que je devais venir en France pour faire des papiers pour justement pour la Coupe du Monde, etc. Et le club était au courant. Et en fait, après l'entraînement, j'étais censé partir. Mais là, le coach, il a dit oui, comme on a gagné la veille, 2 jours libres.
Ouais.
Voilà. Bah en fait, je me suis fait carotte, j'aurais pu partir avant.
D'accord.
Et du coup, je suis resté.
Ouais.
Et j'ai pris mon vol à 10h, comme ça, ça allait me permettre de dormir un peu. J'ai pris mon temps. Mauvais moment.
Bon. D'accord. Et après, raconte-nous la suite, parce que tu as quand même réussi à fuir l'Iran, parce que tu es passé par l'Azerbaïdjan. Mais là aussi, c'est toute une histoire, parce que tu n'avais pas le bon pass pour quitter le territoire iranien. Tu as passé la première frontière, mais tu as été bloqué entre deux pays pendant plusieurs heures. Quoi.
Exactement. J'arrive à la frontière azerbaïdjanaise. À 4h du matin environ. Et ils ont dit qu'elle devait ouvrir à 8h. Ensuite, on attend 8h, elle n'ouvre pas. Ils disent problème dans le système. On attend 9h, elle ouvre. Et quand j'entre, ils parlent avec moi, ils me mettent bien parce que c'était encore l'Iran. Et il y avait beaucoup de fans d'Esteghlal parce que c'est vraiment un gros club. Ouais, c'est un très gros club.
C'est le PSG iranien, quoi.
Ouais, franchement, c'est vraiment ça. Et en termes, on va dire, de fans, c'est même pire même que le PSG. Si on prend le pays, quoi.
Voilà.
Ouais, c'est énorme la ferveur là-bas. Et en fait, ils prennent des photos, ils sont là comme s'il n'y a rien, quoi. Tranquille, voilà, ils prennent des photos et tout.
Ça te rassure à ce moment-là?
J'avais l'habitude parce qu'ils sont vraiment partout en fait dans le pays. Ça veut dire que j'étais pas nécessairement rassuré, mais c'était un jour comme les autres entre guillemets. Ils m'ont fait ressentir ça en tout cas. Mmh. J'étais pas rassuré, mais j'étais normal. Et après, on a pris des photos et tout. Ils m'ont mis le tampon dans mon passeport. Et lorsqu'ils mettent le tampon dans mon passeport, moi je me dis voilà, j'ai le passeport français. Je vais rejoindre l'Azerbaïdjan. C'est juste là. Tu traverses un pont.
Oui.
Voilà, il y a un petit fleuve et tout. Ouais. Et il y a les forces azerbaïdjanaises là-bas et tout. Voilà.
Tu traverses à pied.
Je traverse à pied, ouais, avec ma valise et mon sac. Ouais, je traverse, en plus il faisait froid, j'avais pas de vêtements parce que j'ai dû partir vite.
Ouais, t'étais en short quoi.
Non, j'étais pas en short.
Avec les chaussures.
J'étais en chemise et tout, il faisait vraiment froid, pluvieux et tout. Du coup, je traverse et quand j'arrive à la frontière d'Azerbaïdjan, ils sont en train de checker mes papiers. Par chance, juste avant de partir, quand j'étais encore avec Mounir en Iran, à l'aéroport, juste après à l'hôtel, le chef de la sécurité d'Esteghlal, il est venu, mais comme je vous ai dit, il avait un téléphone spécial,
ouais.
D'accord, lui, son téléphone, il marchait.
D'accord.
En fait, il n'y avait plus Internet dans tout le pays,
ah.
Mais lui, il avait une puce spéciale, ça s'appelle une wildcard.
T'as pu prévenir alors ?
J'ai pu prévenir que voilà, il n'y a plus rien, je vais partir pour approximativement 20 heures, là, je serai plus connecté. J'ai dit ça à ma femme. Et lui, il nous a fait un partage de co. Du coup, j'ai pu dire ça. Et j'ai pu dire à ma femme de prendre un visa en Azerbaïdjan, en express. Il te le délivre en 3 heures.
Ouais.
Ah ouais.
Elle a pu le faire, c'est un visa express, elle a pu le faire. Mais sauf que j'allais pas le recevoir, j'avais plus internet. Du coup, 3 heures après, bon, si elle l'a pris, ben, c'est moi et ma chance. Et j'ai pu aussi prendre une eSIM rapidement avec mon téléphone, essayer de l'activer. Du coup, si je me rapproche de la frontière d'Azerbaïdjan, là, j'aurais pu peut-être capter un peu internet. Du coup, quand je suis arrivé à la frontière là, je prenais du temps, je faisais exprès de parler avec les forces d'Azerbaïdjan et j'ai pu capter internet et télécharger déjà mon visa. Je me suis dit, c'est bon, j'ai le visa, j'ai le passeport, je passe.
Je vais passer, ouais.
Et là, ils me disent, non, tu passes pas. Ouais. Ils me disent le code. Et moi, je le regarde comme ça, stupéfait. Je lui dis, bah, j'ai pas de code. Quel code? J'ai le visa et tout. Il me dit, non, c'est pas le visa. Il me dit, tu repars en Iran. Après, moi, je suis confus. Je dis, oh, je repars, bah, j'ai pas le choix, je repars. Il a pris un ton quand même rude.
Ouais, dur, ouais.
Voilà. Je repars en Iran. Quand j'arrive, j'arrive à la frontière. Eux, ils sont surpris. Ils me regardent, ils me disent, qu'est-ce qui se passe et tout. Je leur dis code et tout. Ils me disent, quoi? Mais t'as pas de code et tout. Je dis, ben, quel code? Personne m'a averti de ça. Ils nous ont dit, vous dirigez-vous vers les frontières d'Azerbaïdjan ou bien de Turquie. Et moi, il faut savoir que j'ai pris celle d'Azerbaïdjan puisque j'avais un vol, en fait, à 6 heures du matin.
Voilà. D'Azerbaïdjan.
Ça veut dire que déjà, comme je suis arrivé, normalement, la frontière ouvre à 8 heures du matin, entre guillemets. On le savait pas. Normalement, elle est ouverte 24 sur 24. Parce que les autres jours après, elle est restée ouverte 24 sur 24.
D'accord.
Comme je suis resté là-bas, j'ai pu le voir. Je suis resté énormément de temps. J'ai pu le voir. Mais, lorsque j'arrive, mon vol, normalement, il était censé être à 6h55 à Bakou. Du coup, comme je suis arrivé à 3h45, j'allais peut-être pouvoir la voir. D'accord? Du coup, vol perdu. Je prends un autre vol à 10h et quelques juste après parce que je me dis que
ça va se régler.
Ah, voilà, ça va se régler. Ouais. Perdu aussi. Deuxième vol perdu. Excusez-moi, à 13h et quelques, perdu. Et quand je reviens à la frontière iranienne, bah là, je leur dis, ben, du coup, il faut que je sorte. Laissez-moi sortir, au moins je vais à l'hôtel. Ou voilà, je fais quelque chose, je vais pas rester là. Voilà, le temps que le code, le temps que je fasse les démarches avec.
Ouais, que tu récupères le code, quoi.
Exactement, avec les ambassades concernées. Et ils me disent, à cause des bombardements, le système, il marche plus. Du coup, ils pouvaient pas annuler le tampon qu'ils m'avaient mis pour pouvoir sortir du pays.
Ouais.
Du coup, ben là, je suis
donc tu te retrouves entre les deux.
Et tu te retrouves dans une zone grise comme ça entre deux pays. On précise d'ailleurs que heureusement, ton entourage a fait le nécessaire. La communauté haïtienne s'est mobilisée. On peut également remercier l'ambassadrice française en Azerbaïdjan, Madame Sophie Lagoud, qui t'a aidé aussi à quitter le pays. Tu es arrivé ce matin. La question, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu as des nouvelles de tes coéquipiers sur place? Où est Mounir Al-Adadi, par exemple? Et surtout, tes coéquipiers iraniens, est-ce que tu as des nouvelles d'eux sur ces dernières heures?
Mes coéquipiers iraniens, pas du tout. Pas de nouvelles. Puisque, comme j'ai dit,
il n'y a plus de réseau.
Il n'y a plus Internet, sauf le chef de la sécurité. Je lui ai écrit, mais il a reçu, il n'a pas répondu. Mounir, je sais qu'il est à Madrid actuellement. Tout à l'heure,
il a pu rentrer aussi.
Ouais, il a pu rentrer, lui rentre avant moi. Après, j'ai mon coéquipier aussi, Moussa Djenepo. Lui, c'est vraiment mon frérot, lui. Et Moussa, ça m'a fait mal au cœur quand on s'est dit au revoir. Il est parti en Turquie avec la camionnette. Et moi, je pars en Azerbaïdjan. Franchement, ça m'a brisé le cœur. Parce que je savais que lui aussi, il avait pas de visa. Que ce soit déjà en Azerbaïdjan. Avec moi, ça aurait été plus compliqué.
Et il est passé, lui, en Turquie ou?
Il est en Turquie avec eux. Il est parti avec aussi Didier Ndong, qui a évolué notamment à Lorient. Et il était avec Mounir. Mounir, il est passé directement avec son passeport. Parce que c'est un passeport espagnol. Didier, il a peiné aussi à passer, mais il est passé aussi juste après Mounir. Il a fait les papiers du Gabon ou quoi. Et Moussa, il a eu énormément de difficultés. Ils ont dû faire intervenir le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui envoie une lettre officielle à la Turquie pour pouvoir le libérer. Et il est sorti, je crois, quand ils sont arrivés, déjà eux, je voulais pas faire la route avec eux parce que c'était plus long. Ils ont fait déjà 13 heures de route jusqu'à Tabriz. D'accord? Et après ça, et Moussa, je crois qu'il a patienté, franchement, sans mentir, approximativement 20 heures à la frontière. Et il m'a dit que c'était pas comme moi. Moi encore, c'était une office. Voilà.
Ouais, lui, c'était à la barbare, quoi.
Voilà, il m'a dit, lui, c'était une petite maisonnette, il faisait froid, etc. Et ensuite, lui, il doit aller au Burkina. Burkina, Guinée, Mali. Ah, et je ne sais même pas s'il est arrivé là.
Un vrai périple. Bah, écoute, on pense à lui, en tout cas, ton coéquipier. Question très simple. On va parler de la Coupe du Monde dans un instant, mais dans quel état d'esprit t'es aujourd'hui? Est-ce que tu envisages, si jamais la situation se calme, un jour de retourner en Iran, ou est-ce que tu te dis, ça y est, c'est terminé, je ne retournerai plus jouer là-bas dans mon club?
Franchement, là, je ne sais même pas quoi penser actuellement. Là, je suis juste content d'être sain et sauf. Je vais retrouver ma famille.
Ouais, c'est plus important.
Je suis bien. Après, je prendrai la peine de réfléchir à ça. Après, c'est sûr que je dois faire vite, puisque la Coupe du Monde, ça arrive vite. Il faut que je sois en condition.
Alors justement, parce que précisons qu'on a quand même l'attaquant star d'Haïti, Haïti qualifié pour la Coupe du Monde avec un groupe magnifique. Hein, tu as 74 sélections, toi, avec cette sélection haïtienne. Vous avez un groupe sublime, Brésil, Maroc, Écosse. La Coupe du Monde s'annonce belle pour vous. Le premier match face à l'Écosse le 13 juin. Donc ta priorité aujourd'hui, c'est, même si tu es encore dans l'émotion, tu veux retrouver ta famille et c'est tout à fait compréhensible, tu veux rester performant parce que ton rêve de Coupe du Monde, tu l'as toujours et c'est ça qui te pousse à chercher un nouveau projet.
Bien sûr, c'est quelque chose qui m'anime, c'est le rêve de tout footballeur, c'est le Graal, c'est la Coupe du Monde. Donc, il faut que je sois prêt pour pouvoir représenter au mieux mon pays là-bas.
Bon. Et votre gardien?
Johnny Placide.
Eh oui, c'est vrai, c'est celui de Bastia.
C'est Johnny.
Eh bien sûr,
c'est parce Johnny.
Vous n'avez pas fait un seul match éliminatoire chez vous, je crois, en plus. Hein.
Oui, on est la seule équipe. Ouais. C'est c'est historique.
Tu es un footballeur du monde, toi. Sauf de chez toi, finalement. C'est quand même frustrant de ne pas faire un match à Haïti, quand même, un match éliminatoire.
Bien sûr, ça fait très mal au cœur. Surtout que moi, j'ai eu la chance de pouvoir disputer des matchs au pays. Il y a des gens dans la sélection qui n'ont jamais mis un pied en Haïti.
Eh ouais.
Du coup, ils n'ont pas cette attache-là. Moi, je sais pourquoi. Quand je mets cette tunique, je sais pourquoi je me bats. Donc ça fait vraiment mal. Après, c'est les problèmes qu'il y a actuellement au pays qui font
qu'il y en a aussi. Hein. Il y a 16 000 personnes qui ont été tuées en Haïti, on le précise, depuis 2022, d'après l'ONU. Donc là aussi, la situation est critique en Haïti. Dukens, merci beaucoup pour ton témoignage.
Merci beaucoup,
un témoignage très fort. On est content de te voir sain et sauf ici en France.
Bon courage surtout pour la suite.
Et on pense à toi, on est derrière toi d'ailleurs. Il y a plusieurs projets qui te sont proposés ces dernières heures. On espère que tu vas vite retrouver un club pour pouvoir aller disputer la Coupe du Monde avec l'Haïti aux États-Unis. Merci Dukens.
Merci
beaucoup. Et dans un instant, le retour de Roten sans flamme. On va parler de la course au titre. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Roten sans flamme.